VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 16 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Tunisie, deux candidats anti-système, Nabil Karoui et Kais Saied, assurent être au deuxième tour de la présidentielle.
En Algérie, la date de la présidentielle a été fixée au 12 décembre par le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, conformément aux vœux de l'armée.
En Somalie, plusieurs soldats burundais de la MISOM ont été tués samedi dans une embuscade tendue par Al-Shabaab.
En République démocratique du Congo, 36 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau sur le fleuve Congo, dans la région de Kinshasa.
Les États-Unis sont prêts à répondre aux attaques de drones contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Le prix du baril s'envole ce matin en Asie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Tunisie, deux candidats anti-système, l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui et l'universitaire indépendant Kais Saied, ont affirmé dimanche soir être qualifiés pour le deuxième tour de la présidentielle tunisienne, se basant sur deux sondages convergents. Le point avec Jean-Roger Bion.
Nabil Karoui est au second tour, a indiqué une responsable de son parti, Kalb Tounes. Nous espérons qu'il sera libéré demain et qu'il puisse mener campagne de façon équitable, a déclaré l'épouse de M. Karoui, Salwa Asmaoui, devant la presse avant de lire une lettre écrite par son mari arrêté pour blanchiment et fraude fiscale. Nous espérons pour ce second tour que l'injustice cesse et que la compétition électorale soit équitable envers les deux candidats, avec un respect total de la Constitution, des lois, de la volonté des citoyens et des électeurs, a-t-elle lu. De son côté, Kais Saied a déclaré être arrivé premier au premier tour, s'appuyant sur ses sondages qui le donnent en tête avec 4 points d'écart devant M. Karoui. Le premier candidat à la magistrature suprême présenté par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, arrive troisième avec 11 à 12%, loin devant le premier ministre Youssef Chahed, situé entre 7 et 8% selon ses sondages. Pour sa part, l'instance en charge d'organiser les élections a indiqué que le taux de participation avait atteint 45%. Les résultats officiels préliminaires ne seront annoncés que mardi par l'ISIEU.
Pendant ce temps, en Algérie, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a annoncé hier que l'élection présidentielle aura lieu le 12 décembre. Ce sera pour choisir un successeur à Abdelaziz Bouteflika. M. Ben Salah respecte ainsi minutieusement la suggestion du chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, véritable enfant du pays depuis la démission de M. Bouteflika le 2 avril. Les manifestants dont le mouvement a conduit à cette chute exigent le départ des figures au pouvoir, M. Ben Salah et le général Gaïd Salah en tête.
En Somalie, selon des sources sécuritaires locales citées hier par l'AFP, plusieurs soldats burundais de la MISOM, la force de l'Union africaine, ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des militants islamistes Shebab contre un convoi militaire au nord de Mogadiscio. Un haut gradé burundais, joint par téléphone à Bujumbura, a précisé à l'AFP que 12 soldats burundais avaient été tués et 6 autres blessés. Pour leur part, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque et affirmé avoir tué 14 soldats burundais dans un bref communiqué.
Au Cameroun, des responsables de l'armée et de l'administration locale ont annoncé hier à l'AFP que 6 soldats camerounais ont été tués vendredi dans une attaque du groupe djihadiste nigérien Boko Haram visant leur poste militaire dans l'extrême nord. 9 autres militaires ont été également blessés dans cette attaque menée par un commando muni d'armes légères survenue en fin de soirée à Souéram, non loin du lac Tchad, près de la frontière nigériane, selon les mêmes sources.
Nouveau drame fluvial en RDC, 36 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau de transport de marchandises et de passagers sur le fleuve Congo dans la région de Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé hier la police, qui fait état de 76 rescapés. Le point avec Abdourahman Dia.
Le bateau en provenance de Maïndombé, dans l'ouest du pays et à destination de Kinshasa, a fait naufrage dans la commune de Maluku, située à une centaine de kilomètres du centre-ville, à un endroit où le courant du fleuve est fort. Les accidents sont fréquents sur les cours d'eau de la RDC en raison de la vétusté des embarcations, de leur surcharge en passagers et fret et de l'absence de balisage. Les bilans sont aggravés par le fait que dans la majorité des cas, les passagers ne portent pas de gilet de sauvetage et la plupart ne savent pas nager. La RDC ne compte que très peu de routes praticables. Les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo, ses affluents et les lacs. Au mois d'août, au moins une quinzaine de personnes sont mortes dans un naufrage d'une pirogue motorisée à Bukavu sur le lac Kivu dans l'est du pays. Fin mai, le naufrage d'une péniche avait causé la mort d'au moins 32 personnes sur le lac Maïndombé dans l'ouest du pays. Mi-avril, le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalehe sur le lac Kivu avait endeuillé 142 familles selon le président Félix Tshisekedi, sans que l'on en sache le bilan exact.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a déclaré que les forces américaines sont prêtes à répondre aux attaques de drones contre d'importantes installations pétrolières en Arabie Saoudite, attaques revendiquées par les rebelles houthis que combat Riyad au Yémen. Monsieur Trump a déclaré hier soir dans un tweet « Il y a des raisons de croire que nous connaissons le coupable ». Il a ajouté attendre que les Saoudiens lui disent qui ils estiment être le coupable de cette attaque et sous quelle forme nous devrons agir.
À noter que le président Trump n'exclut toujours pas l'hypothèse d'une rencontre avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Ceci malgré les accusations du secrétaire d'État américain Mike Pompeo contre Téhéran suite à ces attaques de drones. De nouveau, Jean-Roger Billon.
La conseillère à la Maison-Blanche, Kellyanne Conway, était interrogée sur la chaîne Fox News pour savoir si le président américain envisageait toujours de rencontrer Hassan Rouhani à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, comme M. Trump l'avait lui-même suggéré il y a quelques jours. Il a dit qu'il allait y réfléchir. Le président considérera toujours quelles sont ses options, a répondu Mme Conway, ajoutant que les conditions devaient être bonnes pour conclure un accord ou organiser une rencontre. De son côté, l'Arabie Saoudite s'efforçait de faire redémarrer ses installations pétrolières endommagées samedi par des attaques de drones. Ces attaques revendiquées par les rebelles houthis du Yémen ont causé l'arrêt de 5% de la production mondiale de pétrole. Mais le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé directement l'Iran d'avoir lancé une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial. Selon lui, il n'y a aucune preuve que l'attaque soit venue du Yémen. L'Iran, qui soutient les rebelles houthis dans le conflit yéménite, a réfuté dimanche des accusations américaines qu'il qualifie d'insensées.
Ajoutons que les cours du pétrole ont grimpé de 10% lundi matin en Asie, deux jours après les attaques contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, qui ont donc entraîné une réduction de moitié de sa production.
L'Organisation de coopération islamique a exprimé dimanche son rejet total de la promesse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'annexer des pans de la Cisjordanie. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué l'OCI à l'issue d'une réunion d'urgence à Jeddah en Arabie Saoudite. La paix au Proche-Orient ne sera achevée qu'avec le retrait israélien des territoires occupés en 1967, y compris Jérusalem-Est, souligne-t-on dans le communiqué.
Les 46 000 employés du géant automobile General Motors, ici aux États-Unis, sont appelés à la grève depuis minuit dimanche. Leur centrale syndicale espère que ce mouvement rare dans le pays va peser sur les négociations actuellement dans l'impasse sur une nouvelle convention collective. Nous retrouvons Abdourahman Dia.
Selon le puissant United Auto Workers, les responsables syndicaux de tout le pays se sont réunis dimanche matin après l'expiration samedi de la convention collective de General Motors datant de 2015 et ont choisi de se mettre en grève à partir de dimanche minuit. Lancées en juillet, les négociations sont pour le moment au point mort. Le syndicat exige notamment des augmentations de salaire, une meilleure couverture santé et des garanties sur la sécurité de l'emploi, a expliqué à la presse le vice-président de la centrale à l'issue de la réunion à Détroit. Selon le Wall Street Journal, il s'agit de la première grève de cette ampleur au sein de l'entreprise depuis plus d'une décennie. Nos membres ont parlé, nous avons pris des mesures et c'est une décision que nous ne prenons pas à la légère, a déclaré un autre responsable syndical à la tête de la commission chargée des négociations. Également en négociation avec Ford et Chrysler, le syndicat est parvenu vendredi à un accord avec ces deux groupes automobiles.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Sénégal accueillera une centrale électrique flottante, génératrice d'énergie à base de gaz naturel liquéfié, d'une capacité de 235 MW d'ici le mois prochain. Ce volume couvrira 15% des besoins en énergie du pays. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'exploitation gazière offshore Grand Tortue Ameim, un gisement à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie qui devrait entrer en production au cours de la période 2022-2023. L'initiative Desert Power ambitionne de produire 1100 MW d'électricité solaire pour 60 millions de personnes du G5 Sahel à l'horizon 2030. La Banque africaine de développement qui vient de présenter ce plan va financer 20 des 140 millions de dollars des études du projet dont le montant global n'a pas été chiffré. Les pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad se plaignent du faible niveau d'accès de leur population à l'électricité et de l'importante dépendance aux énergies fossiles malgré un fort potentiel d'énergie solaire. Pour terminer, la Banque centrale du Zimbabwe a annoncé avoir relevé son taux d'emprunt de 50% à 70% après une forte hausse de l'inflation et une chute brutale de la monnaie nationale. L'institution financière espère que la hausse des taux d'intérêt stabilisera l'inflation et atténuera la pression exercée sur le taux de change. La Banque centrale zimbabwéenne compte aussi introduire des obligations d'épargne libellées en dollars avec une durée de 3 ans et un taux d'intérêt de 7,5% pour tenter de stimuler une plus grande épargne.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Basketball pour démarrer avec le mondial masculin en Chine. L'Espagne remporte le trophée.
Oui, après avoir battu l'Argentine 95 à 75 lors de la finale disputée hier à Pékin, les Argentins n'ont rien pu faire face au collectif de la Roja, amené par Ricky Rubio, qui a été élu MVP de la compétition. Dans le match de classement, la France a dominé l'Australie 67 à 59.
Football à présent avec les Coupes d'Afrique de clubs et les matchs allés du deuxième tour. On commence par la Ligue des Champions.
Et le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, a été accroché 1-1 à N'Djamena par les Tchadiens de l'Export. L'Étoile du Sahel, de son côté, a concédé la défaite 2-0 au Ghana devant la Santé Kotoko. Les Congolais de TP Mazembe et l'ASV Club ont ramené le nul blanc de leur déplacement, respectivement à Madagascar face à Vosa Junior et au Togo contre l'ASCK.
Élisée, contrairement aux Tunisiens et aux Congolais, les Marocains ont tenu leur rang.
Le Wydad, finaliste malheureux la saison dernière, s'est imposé 2-0 en Mauritanie face au FC Nouadhibou. Son voisin, le Raja, n'a pas tremblé non plus à l'extérieur face au Libyen d'Al-Nas 3-1. Un bon résultat, selon Patrice Cateron, l'entraîneur du club marocain.
Je trouve qu'on a fait un match sérieux. J'ai trouvé qu'on a fait un match d'hommes, parce qu'on a été présents. C'était un moment difficile, un tournant dans la saison. Il fallait répondre présent. On était dos au mur. Et on a vraiment fait un match plein. J'ai trouvé qu'on avait un très bon état d'esprit, une qualité de jeu technique bonne également, malgré le terrain petit à petit rendu difficile.
À l'instant même, Patrice Calteron, l'entraîneur du Raja de Casablanca, au micro d'Amin Birouk. Et puis, les Nigériens d'Enimba ont été accrochés à domicile par les Soudanais d'Al-Hilal, score 0-0.
La suite des résultats avec la superbe performance des Sénégalais de Génération Foot.
Oui, à Thiès, ils ont battu les Égyptiens du Zamalek 2 buts à 1 grâce à un doublé de Mam Gueye. Par contre, l'autre géant du Caire, Al Ahly, est allé battre 2-0 Kano Sport en Guinée équatoriale. Même score en faveur des Algériens de la JS Kabylie aux prises avec les Guinéens d'Oroya. Et puis, carton des Sud-Africains des Mamelodi Sundowns sur le terrain des Seychellois de Côte d'Or, 5-0.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour ce matin sur la réunion samedi à Ouagadougou des chefs d'État de la CEDEAO et ceux du Tchad et de la Mauritanie. Un sommet axé sur la sécurité qui s'est terminé par un appel à plus de soutien de la communauté internationale et à un engagement de mobilisation de $1 milliard pour lutter contre le terrorisme. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, les chefs d'État de la CEDEAO ont condamné les attaques terroristes et les violences intercommunautaires dans la région. Ils sont tous unanimes, la déstabilisation de la Libye est la conséquence de ces nombreuses attaques terroristes. Et la communauté internationale y est pour quelque chose.
La communauté internationale a des devoirs vis-à-vis du Sahel. La communauté internationale ne doit pas détourner ses regards du Sahel.
Mahamadou Issoufou, président du Niger, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO.
C'est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne. Crise libyenne dont nous subissons les conséquences aussi bien dans le Sahel que dans le bassin du lac Tchad. Quand cette crise libyenne a été déclenchée en 2011, nous on était contre. On ne nous a pas écoutés et on n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer, comme on l'a souvent dit, le service après-vente à Libye.
La conférence a décidé d'adopter un plan d'action prioritaire sur la période 2020-2024. Les chefs d'État décident ainsi de mobiliser $1 milliard pour faire face au terrorisme. Cet argent sera utilisé en fonction des priorités. Le président burkinabé Roch Kabore, aussi président en exercice du G5 Sahel.
Vous avez des questions de formation, dedans vous avez des questions d'équipement. Dedans, vous avez tout ce qui concerne l'organisation, je dirais, en ce qui concerne la mutualisation des renseignements, etc., etc. Alors, je pense que la collecte va se faire en même temps que sur les différents axes qui ont été dégagés par la CEDEAO, il y en a 8, le financement donc sera adapté à chacun de ces axes.
Tout ne doit pas se limiter au sommet de Ouagadougou en ce qui concerne les questions de sécurité dans la région.
Une chose est d'organiser des sommets, mais une autre chose est de mener des actions fortes suite à ces sommets.
Laurent Kibora, spécialiste en sécurité et développement.
Les conclusions de ce sommet devraient faire acte d'action. Il ne faudrait pas que ce soit des paroles, il ne faudrait pas qu'à la ressemblance des autres sommets, ces conclusions soient rangées dans les tiroirs. Nous voyons qu'il y a une promesse de lever des fonds de $1 milliard, mais ces 1 milliard doivent contribuer à lutter contre la pauvreté et non à acheter des armes.
La mutualisation des efforts, le partage de renseignements, la dotation à l'AMUNISMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, des mandats plus robustes, lui permettant de lutter de manière plus efficace contre le terrorisme, l'entrée en guerre de la force en attente de la CEDEAO, au moins 12 000 hommes, sont entre autres des décisions de ce sommet de Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, la Croix-Rouge internationale a annoncé que le pays compte le plus grand nombre de personnes portées disparues en raison de conflits. L'ONG estime que leur nombre a au moins 22 000, un chiffre que beaucoup considèrent en deçà de la réalité. Reportage de Gilbert Tamba.
Selon l'agence humanitaire, c'est le plus grand nombre de personnes disparues enregistrées auprès des CICR dans un seul pays. L'insurrection du groupe islamiste Boko Haram a fait des millions de déplacés. Alain Manassé est un activiste des droits humains basé à Borno, fief de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.
In the northeast, there is no measure.
Dans le nord-est, il n'y a pas de mesures envisagées et pas de documentation pour les personnes disparues. Et je suis certain que chaque famille doit avoir une personne ou un parent qui est soit porté disparu, soit tué. Et ceux qui sont aussi portés disparus, personne ne peut te dire si certains sont encore en vie ou d'autres sont morts.
Près de 60% des Nigériens portés disparus étaient des mineurs au moment de leur disparition. Adjara Suleiman, 32 ans, vit dans un quartier déplacé près d'Abuja depuis que 6 membres de sa famille, dont ses 4 enfants, sont portés disparus il y a 4 ans.
Quand ils sont venus, on ne pensait pas qu'ils allaient sélectionner des gens entre nous pour les amener. Ils ont dit à mon père, sa femme et les enfants, de les suivre. Ou alors, ils vont tuer tout le monde.
Les familles dans le nord-est du Nigeria sont souvent séparées lorsqu'elles fuient des attaques. Abela Idrissa, aujourd'hui 18 ans, et son frère fuyaient une attaque de Boko Haram contre leur village en 2016, quand ce dernier a été enlevé.
Nous étions en train de marcher ensemble et tout d'un coup, les éléments de Boko Haram sont arrivés. On a demandé à tout le monde de rentrer dans sa maison, qu'ils étaient à la recherche des enfants pour les envoyer à l'école. Cela fait déjà 3 ans que mon frère a disparu. Je ne suis pas content.
Parmi les personnes portées disparues, 112 lycéennes enlevées à Chibok sont toujours introuvables. Bouki Shonibari est membre du groupe Bring Back Our Girls qui se bat depuis 5 ans pour leur libération.
Celles-ci sont celles dont on connaît les noms et dont on peut identifier les visages. Mais il y a plusieurs autres que l'on ne connaît pas. Donc même si les efforts du groupe Bring Back Our Girls sont jusqu'ici vains, notre lutte continue parce que notre engagement est de s'assurer que toutes les filles retrouvent leur liberté. Sans cela, notre combat va se poursuivre.
En 2018, le Nigeria a été classé au 3e rang des pays les plus terrorisés au monde par le Global Terrorism Index. Le conflit dans le nord-est du Nigeria a aussi fait des dizaines de milliers de morts et perturbé considérablement les activités politiques, économiques et sociales. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les femmes du cinéma se sont donné rendez-vous à Cotonou au Bénin à l'occasion de la première édition du Festival international des films de femmes, initiative d'une jeune réalisatrice béninoise. Ce festival vise à valoriser les femmes qui ont choisi de faire carrière dans le 7e art. Précision de notre correspondante à Cotonou, Jeannette Fleur Adandé.
Depuis le 13 septembre, les femmes cinéastes sont à l'honneur à travers un festival qui se veut fédérateur. Initié par Cornelia Glele, présidente de l'association Écran Bénin, ce festival est une première au Bénin et attire les projecteurs sur les violences faites aux femmes. Pour Cornelia Glele, le FIF est né pour poser les vrais problèmes à l'entrave du rayonnement du cinéma au Bénin et dans la sous-région.
On a pensé le FIF Cotonou pour apporter un souffle nouveau au cinéma béninois. Les femmes dans le cinéma, elles font beaucoup de choses, mais on les s'élève pas toujours, on parle pas toujours d'elle. Quand vous prenez de grands festivals et qu'il y a 20 films en compétition, vous avez 2 films de femmes. C'est déjà très inégal.
Cette première édition du FIF est parrainée par Loukou Akissi Delphine, cinéaste et réalisatrice ivoirienne des années 80, qui continue toujours son petit bonhomme de chemin. Pour elle, ce festival vient à point nommé pour encourager les femmes qui hésitent encore à se lancer dans le domaine à cause de certaines barrières socioculturelles.
Si toutes les femmes d'Afrique francophone se lèvent pour se battre pour le cinéma, on est au même 1000, notre voix va porter. Il faut qu'on apprenne d'abord à nous aimer, comme ça les hommes vont nous considérer. Violence faite aux femmes, c'est parce que nous-mêmes, pas d'abord, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas d'abord.
Plusieurs activités sont prévues, à savoir la projection des films des femmes du Bénin et de la sous-région, des masterclass, la remise des prix et récompenses pour les films en compétition sur le thème des violences faites aux femmes. Sur la thématique, la cinéaste Sandra Adjaro pense qu'il était temps que de façon officielle, les femmes se donnent l'opportunité de se prononcer sur cet obstacle à l'épanouissement de la femme cinéaste.
Ce métier, c'est pas un métier facile. Quand on est femme, c'est vraiment compliqué. Il faut être vraiment une femme de poigne pour pouvoir atteindre ses objectifs. Les femmes subissent beaucoup de violences. Il faut vraiment un festival pareil pour qu'on puisse avoir vraiment la liberté d'en parler et de nous exprimer.
Les films en compétition seront jugés par un jury dont la présidente Christiane Tchabikao donne ici ses impressions.
On évalue la créativité, on évalue la qualité du film, c'est-à-dire la qualité des images, la qualité du son, la
qualité du montage. On évalue aussi l'originalité. On évalue la thématique. Ce que je souhaite au FIF, c'est la durée. C'est la persévérance contre vents et marées.
Au FIF, il n'y a pas que des femmes. Les hommes aussi sont venus apporter leur soutien. C'est le cas du CGU qui se dit heureux de constater que les femmes s'associent pour se révéler.
Les femmes du 7e A ont trouvé la parade pour se célébrer elles-mêmes. Nous les hommes, nous avons toujours fait ombrage aux femmes. Mais si les femmes décident elles-mêmes de mettre la lumière sur elles, c'est à leur honneur et nous ne pouvons que les soutenir.
Le Festival international de films de femmes prend fin le mardi et restera une biennale qui se penchera à chaque édition sur la carrière et les œuvres des femmes cinéastes. De Cotonou, Zinatua Adandé pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Du 7 au 14 septembre s'est tenue dans la capitale togolaise la 4e édition de l'Homme Fashion Week, un événement qui a connu la participation de stylistes venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Sénégal et du pays hôte, le Togo, sous le thème « L'Afrique, la prochaine frontière de la mode ». Le clou de l'Homme Fashion Week 2019 était la soirée de ce samedi 14 septembre sur l'esplanade du Palais des Congrès, nous dit dans ce reportage notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
C'est l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé qui a accueilli le dernier défilé de l'Homme Fashion Week 2019. Les stylistes ont rivalisé de création et d'originalité pour offrir au public un spectacle riche en couleurs. Tissus pagne, batik, raffia, fourrure ont été agencés de façon harmonieuse pour des créations qui ressortent la beauté de l'Afrique. Fall Touré, styliste et promoteur de l'Homme Fashion Week, a présenté une collection qu'il a baptisée Afrique.
Je me bats pour l'Afrique, je me bats pour les textiles africains. Je me bats pour valoriser tout ce que nous pouvons trouver chez nous pour faire nos vêtements. Alors il fallait que je sois un exemple. Que je montre que tout ce que nous pouvons trouver chez nous peut nous aider, peut être utilisé pour faire de beaux vêtements. Voilà pourquoi je l'ai appelé tout simplement Afrique.
Le spectacle qui a duré 2 heures dans l'auge a rassasié les amoureux de la mode qui ont fait le déplacement.
C'était une soirée riche en couleurs, riche en création. Cette édition de la Fashion Week Togo, nous avions apprécié et nous espérons surtout que les créateurs vont donner encore une fois le meilleur d'eux-mêmes pour les éditions à venir.
J'ai apprécié toutes les collections qui ont été présentées. On a trouvé la soirée très cool. Les collections étaient waouh. Félicitations et à la prochaine édition.
Malgré l'apparent succès constaté par les spectateurs, le combat de Fall Touré est loin d'être gagné. Le promoteur du festival veut s'attaquer maintenant aux préjugés et aux terminologies.
Le terme mode africain, je n'aime pas. Je préfère qu'on dise la mode made in Africa, la mode fait en Afrique. Alors ça veut dire qu'on peut utiliser tout ce qu'on trouve chez nous pour aussi habiller le monde entier. Mais quand on dit mode africaine, en fait, vous ghettoisez l'Afrique, vous ghettoisez les styles africains. En fait, le blanc qui attend ça va croire que c'est une mode faite seulement pour les Africains. Les Africains aussi peuvent habiller le monde entier.
L'Homme Fashion Week vous donne rendez-vous en 2020 pour d'autres spectacles dans la capitale africaine du tissu pagne. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Aaron Smith. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.